affinités électives. Une émission proposée par Canal Academy.
Chers amis, bonjour, vous êtes bien à l'écoute de Canal Academy, merci de votre fidélité. De fidélité, il sera question tout au long de cette émission, mais pas seulement, car nous aurons en réalité, durant les trois quarts d'heure que nous allons passer ensemble, tous les ingrédients des bons récits. Nous aurons des ogres, des enfants, des chevaliers et des brigands, et même une princesse. Nous aurons de bons larrons et de France à l'eau, des traîtres et des amis fidèles. Il y aura des rebondissements, du suspense. Il y aura même l'ombre menaçante du destin et celui de la fatalité. Pas mal de déchaînements de violence. Et peut-être aussi l'espoir vain ou fondé d'une rédemption. Toutefois, il ne sera pas question de contes de fées, ni de contes pour enfants, même si c'est un enfant qui en sera... Le protagoniste, il sera question ici d'histoire de France, puisque nous avons le plaisir de recevoir dans notre studio Anne Muratori-Philippe, qui est correspondante de l'Académie des sciences morales et politiques, et vient de publier un formidable ouvrage sur Marie-Thérèse Charlotte, dite Madame Royale, car il s'agit de la fille de l'infortuné Louis XVI et de Marie Antoinette, un livre qui, m'a-t-elle précisé, n'est pas une biographie, car elle s'est concentrée sur les premières années de son existence et celles beaucoup plus tragiques, bien évidemment, qui l'ont fait se confronter au soubresaut de l'histoire de France à travers, bien évidemment, la Révolution française et le changement de régime et les troubles qui l'ont accompagnée. Anne Muratori-Philippe, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être parmi nous. Pour commencer, j'ai envie de vous demander comment vous est venue l'idée de réaliser ce livre. Après tout, la fille de Louis XVI et de Marie-Antoinette, ce n'est pas un sujet forcément tout à fait d'actualité. Quelle est la genèse du livre ? Je pose la question d'autant qu'il est extrêmement documenté. C'est une enquête très fouillée avec un appareil de notes très développé, c'est un énorme travail, et en même temps qui se lit d'ailleurs très facilement comme un roman, oserais-je dire.
C'est une vieille histoire qui remonte à une quinzaine d'années. Lorsque j'ai vu à Drouot deux lettres de la duchesse d'Angoulême, donc Madame Royale qui a épousé le duc d'Angoulême, et ces deux lettres de la fin de sa vie, or j'avais toujours entendu dire que c'était un personnage épouvantable, qu'elle était invivable, etc., et j'avais trouvé beaucoup d'affection et d'amour pour ses petits-neveux dans ses lettres. Et du coup, j'ai un petit peu regardé sa vie. Et petit à petit, je n'avais pas prévu d'écrire sur elle. Et puis je me suis dit quand même, ça vaudrait le coup d'expliquer ce par où elle est passée, comment elle a vécu cette période révolutionnaire. Parce que tout le monde parle d'elle, il y a énormément de biographies la concernant. Mais on en fait la vestale de la royauté, tout de suite. Et en fait, avant, elle est passée par un certain nombre de difficultés.
Oui, et puis avant, c'est un tout petit enfant, et c'est même un bébé. On commence par le début, ce qui est oui. Bien pour ce livre qui est une non-biographie, mais enfin qui commence quand même au début de la vie du personnage. Et donc, sa vie commence le 19 décembre 1778, lorsque Marie-Antoinette, jeune reine de 23 ans, met au monde son premier enfant. Oserais-je dire, c'est déjà une vie placée sous le signe d'une déception, car on attendait quelqu'un d'autre.
On attendait un garçon, bien sûr, mais en même temps, c'est un grand soulagement, parce que toute la cour n'était que rumeur en disant « le couple royal est stérile, c'est pas possible, ils n'auront jamais d'enfants ». Donc l'arrivée de cette petite fille, quand même, soulage beaucoup la situation.
Elle en soulage certains, mais elle en déçoit déjà d'autres.
Oui, deux, le comte de Provence et d'Artois, les deux frères, qui évidemment reculent dans l'ordre de succession.
Alors, lorsque cet enfant naît, Comment est-elle accueillie à la cour? Quel monde découvre-t-elle? Après tout, tous les petits-enfants, lorsqu'ils ouvrent les yeux, découvrent le monde qui les entoure. Alors le sien est quand même singulier, c'est pas n'importe qui.
Bah déjà, elle est née à Versailles, donc c'est quand même pas rien. C'est un décor somptueux. Elle est entourée de ses parents, parce que Marie-Antoinette veut absolument que sa fille reste auprès d'elle. Et Louis XVI tombe amoureux de cette petite fille, tout de suite. Bon, c'est vrai, il est déçu, il aurait préféré un garçon. Mais dès son arrivée, il va assister à son habillement, à la pose des langes, etc. Et depuis, il ne cesse de la prendre dans ses bras, il la berce, à tel point que l'ambassadeur autrichien Mercier Argenteau est furieux et trouve qu'ils exagèrent, ce couple royal, ils sont tout le temps après leur petite fille, et on ne peut plus leur parler politique, on ne peut plus rien dire à la reine, c'était épouvantable, il se plaint auprès de l'impératrice Marie-Thérèse.
Bon, cela, ils sont un peu des lumières d'ailleurs, quand même.
Tout à fait. En fait, l'idée vient vraisemblablement de Marie-Antoinette, qui a été éduquée de cette manière à la Hofburg par sa mère, et qui avait beaucoup de frères et sœurs, donc ça devait être très vivant. Et là, elle a voulu essayer de recréer une ambiance familiale. Et Louis XVI était tout à fait d'accord, puisqu'il a fini par supprimer les hommages des ambassadeurs auprès de l'enfant. Ils ont édulcoré un petit peu son planning de journée. Et la petite fille était vraiment avec ses parents.
Parce que nous avons reçu à cette antenne récemment les organisateurs de l'exposition L'art et l'enfant nous expliquaient que le 18e était aussi la période où on veut rapprocher les enfants des parents, ne plus y voir, y compris, surtout d'ailleurs dans les hautes sphères de la société, des représentants d'une lignée, mais aussi des objets d'affection.
Oui.
C'est très visible.
C'est très net, c'est le grand courant de cette époque-là.
Y compris rousseauiste d'ailleurs.
Mais oui, mais tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, Marie-Antoinette avait lu Émile, et elle est allée, elle s'est rendue sur sa tombe à Ermenonville.
Pour illustrer cette affection de Marie-Antoinette pour la jeune Marie-Thérèse Charlotte, si vous me permettez, je vais lire une des citations que vous nous livrez. Donc c'est Marie-Antoinette qui parle ou qui parlerait, vous mettez parfois du conditionnel, et donc elle déclare ceci en s'adressant à sa fille. « Pauvre petite, vous n'étiez pas désirée, mais vous ne m'en serez pas moins cher. Un fils eût été plus particulièrement appartenu à l'État, vous serez à moi, vous aurez tous mes soins, vous partagerez mon bonheur et vous adoucirez mes peines. » Je ne sais pas si c'est apocryphe ou c'est vrai, mais ça représente
non, c'est
bien
vrai,
le type
c'est
de
vrai.
Relation.
C'est vrai.
Alors ensuite, vous nous avez dit avoir été surpris par le ton de ces lettres et que vous aviez découvert en salle de vente. Il n'en reste pas, parce qu'elle ne cadrait pas avec l'image de cette petite Marie-Thérèse Charlotte, vue comme quelqu'un d'un peu dur, voire pain bêche, disiez-vous.
Ah oui, un petit peu, oui.
Dans les premières années de sa vie, c'est
oui.
le cas.
Oui, oui, c'est le cas, parce qu'elle sait qu'elle est la fille du roi, que donc on lui doit les hommages, etc. Et si vous faites le moindre impair, elle vous le fait remarquer. Elle le fait remarquer à des dames d'un certain âge déjà, qui ont la cinquantaine, qui ont un passé important et brillant. Mais non, elle, c'est la fille du roi, donc excusez-moi, mais je passe avant vous et vous me devez révérence, etc.
Alors ça, c'est ce qu'elle pense, mais alors oui. Ses parents, pas du tout, notamment Marie-Antoinette. Seconde citation, si vous me permettez. Elle écrit à un membre de sa famille, donc Marie-Antoinette écrit à un membre de sa famille pour parler de sa fille, et elle déclare, à propos donc de la petite Marie-Thérèse Charlotte, « Elle sent trop qu'elle a du sang de Marie-Thérèse et de Louis XIV dans les veines. »
Oui, c'est ce qu'elle a dit à Caroline de Naples. Oui.
Elle la trouve trop orgueilleuse.
Tout à fait, elle est très orgueilleuse, et Marie-Antoinette va essayer de trouver plusieurs solutions, elle va essayer plusieurs choses pour essayer de la modérer. Et finalement, là, ce qu'elle réussit le mieux, c'est qu'elle lui met à ses côtés, elle lui installe une petite fille de son âge, et elles vont vivre ensemble, toutes les deux. Elles vont avoir les mêmes robes, les mêmes objets, et elles vont jouer toutes les deux ensemble. Elles vont en plus devenir très amies. Et comme c'est une petite fille très calme, très pondérée, Ernestine, Madame Royale se laisse avoir, en fait, par la petite fille. Elle est conquise. Et du coup, elle fait comme elle. Donc, elle s'adoucit.
Et cette petite fille est la fille de valet de chambre.
Alors, cette petite fille est la fille de valet de chambre, mais on ne sait pas très bien.
Oui, parce qu'évidemment, la cour à Versailles bruise de toutes les rumeurs. En permanence, c'est un des traits caractéristiques qui accompagneront d'ailleurs cette malheureuse Marie-Thérèse Charlotte tout au long de sa vie et même au-delà.
Au-delà. Oui, alors donc, la petite Ernestine Lambriquet est la fille d'un valet de chambre du comte de Provence et sa mère est la première femme de chambre de la petite Marie-Thérèse Charlotte. Et le bruit court que Ernestine serait née d'une aventure entre le comte de Provence et Madame Lambriquet. Mais on dit aussi que Louis XVI ayant évoqué auprès du comte de Provence ses soucis pour avoir un enfant, lui a suggéré d'essayer avec Madame Lambriquet et de voir si ça marchait. Et ça a marché puisque Madame Lambriquet est tombée enceinte quelques mois avant l'arrivée, enfin quelques mois avant.
Vous tranchez le débat là.
Enfin, dit-on, elle est née peu de temps avant la suite de Marie-Antoinette.
Quels sont les autres, quel type d'instruction qu'elle reçoit par ailleurs, au-delà de cette volonté de lui inculquer un peu plus d'humilité, moins d'orgueil et plus de réserve?
Elle reçoit une éducation normale comme tous les enfants à Versailles, c'est-à-dire qu'ils ont histoire, géographie. Alors ça, Louis XVI fait très attention à ce qu'on lui apprend parce que c'est un magnifique géographe. Il leur fait même des dessins, il conçoit des petits globes et il découpe les globes de façon à ce qu'ils voient les pays, la position des pays, et il les fait riper pour montrer comment on peut faire un assemblage avec un ensemble, l'Europe, comment se constitue l'Europe, comment se constitue l'Asie, etc. Donc, et puis, bon, il y a les abbés qui sont forcément en train leur apprennent les mathématiques, les sciences et aussi un peu de littérature. Voilà, c'est une éducation normale, pas plus difficile que l'éducation des autres petits aristocrates de l'époque. Simplement, l'éducation a lieu à Versailles avec des abbés très condescendants, l'abbé Vermont, qui sont pas des grandes figures.
Alors avant même que l'histoire s'en charge, le destin de la famille est marqué par des événements tragiques. C'est une époque où la mortalité infantile est beaucoup plus importante qu'aujourd'hui, bien entendu.
Oui.
Et la famille royale n'est pas épargnée.
Oui, il y a la petite Sophie qui, après les deux, il y a eu quatre enfants. Donc il y a Marie-Thérèse, l'aînée, et puis les deux, le dauphin, ensuite le duc de Normandie et la petite Sophie. Et la petite Sophie meurt à 11 mois. Bon, je sais plus très bien. Enfin, je sais que Marie-Antoinette est très...
Elle est morte de convulsion, non ?
De convulsion, mais...
Quant à savoir la cause exacte.
La cause, mais... je ne sais pas. C'est pas spécifié, je n'ai rien trouvé la concernant. Mais en fait, c'est l'atmosphère de ce petit groupe familial se retrouve dans le tableau de Madame Vigée-Lebrun, où on voit le berceau vide, c'est la petite Sophie qui vient de partir. Et les enfants sont autour du berceau, un peu angoissés, un peu inquiets.
Ensuite, la grande histoire va frapper à leur porte.
Voilà, après,
on a le sentiment
oui.
qu'ils ne comprennent pas bien au début l'ampleur d'événements.
Ben
personne, probablement.
Personne, enfin, en tout cas, à la cour, personne, à part un ou deux aristocrates, très peu de gens avaient compris que c'était mal parti. En revanche, le ministre Mercier, enfin l'ambassadeur d'Autriche, Mercier Argenteau, avait été alerté, et j'ai lu les lettres qu'il écrivait à l'impératrice, enfin, et après à l'empereur. Il annonçait quand même que les choses tournaient très mal pour la France. Et donc, il y avait beaucoup de gens qui étaient au courant, qui voyaient les choses arriver.
Alors, à la décharge de Louis XVI, au moment où si j'ai bien compris, lorsque les états généraux sont convoqués, il est quand même marqué par un autre deuil, on a parlé du décès des enfants, le deuil du dauphin. Quelques sujets de préoccupation, à la fois en tant que père et en tant que héritier d'une longue lignée.
Ben oui.
Au moment même donc où les événements commencent à se préciser.
Oui, ce qui fait que ça lui a fait dire à un moment donné, lorsque Bailly a voulu avoir une entrevue avec le roi, c'était au moment où il y avait eu le « nous ne sortirons que par la force des armes », etc. Bailly a insisté pour être reçu par Louis XVI, et Louis XVI l'a très mal pris en disant « mais enfin, ils n'ont jamais d'enfants malades à l'Assemblée », ou je ne sais plus, c'était pas encore l'Assemblée, mais...
Oui, bah, dans le tiers état, je crois que c'est
oui,
ça.
Oui. Tiers état. Oui, je crois que c'est ça.
Le représentant du tiers. Oui. Alors, ce qui est assez étonnant, à ce moment, ils sont encore à Versailles.
Oui.
L'émigration ne va pas tarder à commencer. Mais il reste. Systématiquement, il reste. Des occasions se présentent les unes après les autres.
Oui.
Et il reste.
Des propositions même très sérieuses qu'on leur fait, de fuite, mais non, ils refusent. Louis XVI avait dit qu'il ne voulait pas partir. C'était Marie-Antoinette qui voulait partir. Bon, déjà, elle se savait détestée. Il y avait eu l'affaire du collier, il y avait eu toutes ces affaires qui n'avaient pas arrangé les choses. Donc, elle était dans une situation délicate. Mais Louis XVI pensait pouvoir rétablir la situation en temporisant, en allant dans leur sens, mais en freinant pour obtenir une monarchie constitutionnelle. Et puis il s'est laissé emporter. Enfin, il a pas vu que les autres... Et c'était beaucoup plus grave que ça. Ils voulaient plus de la royauté, ils voulaient plus du roi. Donc, ils ont tout fait pour le chasser.
Et puis, on sent qu'il y a une forme d'engrenage qui touche aussi, d'ailleurs, les adversaires de l'ancien régime.
Mais oui.
C'est-à-dire qu'au départ, les revendications sont relativement modérées. Et puis, on en veut plus, mais ce n'est pas forcément prévu. C'est que d'autres forces se sont mises en branle.
Oui, c'est ça. C'est la révolution qui est en train de naître. Et je crois que Louis XVI ne l'a pas vu. Et il n'a pas écouté, ce que son entourage lui disait, parce qu'il y en avait quand même qui s'en étaient rendu compte. Mais il y a aussi des personnages qui ont joué des drôles de jeux. Lafayette, par exemple, qui un jour était dans le camp des municipalités et de l'Assemblée, et de l'autre était auprès du roi, soi-disant, pour le sauver, et puis il ne faisait rien quand... Quand le mal arrivait, il ne faisait rien, il ne bougeait pas.
Oui, ça c'est le premier événement où Madame Royale est confrontée à la violence et au chamboulement qui va emporter sa vie. Si je me souviens bien, c'est lorsqu'il se trouve à Versailles.
5-6 octobre, à Versailles.
À Versailles, Lafayette, qui dirige à ce moment-là la garde nationale, si je ne me trompe pas, promet de les protéger. Et en fait, il laisse les grilles du château ouvertes.
Il va dormir tranquillement chez le ministre de la guerre. Et puis, il y a toutes les harangères qui étaient de fausses harangères, puisque sous les haillons, c'était des hommes puissants, costauds, entre autres. Enfin, il y avait quelques femmes, mais en minorité. Et donc, oui, l'attaque des Tuileries, en fait, il voulait s'en prendre à Marie-Antoinette. Et elle a été sauvée par ses gardes qui ont été tués. Et puis, ils se sont tous regroupés dans une même pièce. Et c'est à ce moment-là que les femmes en bas, dans la cour de Versailles, ont demandé à voir la reine Marie-Antoinette. Alors elle est sortie avec ses enfants, qu'elle tenait à la main. Et on a dit non, sans les enfants. Alors on s'est dit, ça y est, ils vont la tuer. Puis non, ils ont été tellement époustouflés. Elle est sortie comme elle savait faire. Elle avait beaucoup d'allure et elle savait en imposer. Là, ils se sont calmés et ils n'ont rien dit. Simplement, Lafayette a réussi à obtenir du roi qu'il viendrait à Paris, qu'il quittait Versailles.
Et donc, ils se retrouvent aux Tuileries, les Tuileries n'étant absolument plus qu'elles avaient été et ce qu'elles sont redevenues.
Ça faisait 67 ans que les Tuileries n'avaient pas été habitées. Et ils sont arrivés le soir, de nuit, enfin à 10 heures du soir. Ils ont essayé de se coucher tant bien que mal. Marie-Antoinette a mis ses enfants dans le petit appartement qu'elle s'était fait arranger pour ses soirées quand elle sortait de l'opéra ou du théâtre et qu'elle était fatiguée, qu'elle n'osait pas rentrer à Versailles. Elle allait se coucher dans ce petit appartement aux Tuileries. Et donc c'est là qu'elle a fait dormir ses enfants pour la première nuit.
Alors sur le trajet, il y a un autre personnage. On a promis des traîtres, des brigands et des salauds. Sur le trajet entre Versailles et Paris, il y a un personnage qui se trouve au balcon du côté de Passy.
Ben oui.
Et qui regarde passer le convoi. De qui s'agit-il ?
C'est le cousin, le duc d'Orléans, avec Madame de Genlis et ses enfants. Et il montre à ses enfants dans quel état se trouve... les ennemis, les Bourbons.
On est confronté quand même tout au long du livre à des personnages d'une noirceur absolument effroyable. Vous voyez, non seulement les éruptions de violence de la populace, mais enfin, après tout, un match de football peut leur suffire. Au moment où nous enregistrons, on peut le constater. Tous les prétextes sont bons pour la violence. Mais on est quand même tenté, à certains moments, de lui donner une coloration politique. Et puis, au fur et à mesure qu'on avance dans le livre, on se rend compte que non, pas du tout. Ça va au-delà de la politique. C'est quelque chose qui est de l'ordre de la nature humaine.
Oui, je crois. Je crois.
Est-ce que vous pouvez nous décrire, au fur et à mesure de leur... parce qu'on a tendance à oublier ces déchaînements de violence absolument effroyables. On les oublie peut-être parce qu'ils nous gênent, qui accompagnent chaque déplacement... chaque déplacement de la famille royale, donc d'abord de Versailles aux Tuileries, ensuite il y a l'épisode de la fuite de Varennes dont on parlera, mais ensuite à l'Assemblée, puis de l'Assemblée au Temple. Comment est-ce que ça se passe ?
Ben, en fait, ils ont concentré leur haine sur la reine, parce que le roi, finalement, il ne l'embête pas. Ils sont pas trop agressifs avec lui, mais ils veulent en découdre avec la reine, et c'est la peau de la reine qu'ils veulent. Donc Louis XVI est quand même obligé d'essayer de la protéger. Mais quand on voit la manière dont les choses se passent, c'est assez étonnant, parce que Marie-Antoinette arrive avec assez d'autorité à calmer le jeu. Par exemple, quand les Tuileries sont envahies, Elle est avec le dauphin et Madame Royale, et entourée de tout un tas de dames. Et quand on vient lui parler, qu'on veut que le petit prince mette le bonnet rouge et qu'un officier de la garde demande « Mais quel âge a votre fille ?» Il demande à Marie-Antoinette. Et Marie-Antoinette dit « L'âge où l'on a toujours du mal à voir des choses pareilles... Et elle arrive à s'imposer. Elle tient le coup. C'est assez remarquable. Moi, j'étais étonnée. Je pensais pas. Je pensais qu'elle lâchait prise, mais pas du tout. Et tout au long de ces manifestations, elle est la reine et elle est présente et elle s'impose. Et ce n'est que quand elle est au temple qu'elle commence à aller mal, Et c'est très curieux parce qu'on voit à ce moment-là la petite Marie-Thérèse qui est dans ses manifestations auprès de sa mère, là, a peur et elle demande le secours de sa mère. Sa mère la prend et elle est avec elle.
Mais rappelez-nous son âge à ce moment-là.
Elle doit avoir, en 89, elle avait 10 ans et demi. Et donc, quand ils arrivent au temple, c'est l'inverse. C'est Marie-Antoinette qui s'effondre et c'est Marie-Thérèse Charlotte qui vient protéger sa mère. C'est tout à fait le contraire. C'est très curieux. Alors
pour resituer, donc, la famille royale se trouve enfermée au temple. Là, ce sont des conditions qui se dégradent quand même considérablement parce que jusqu'aux Tuileries et même à l'Assemblée,
oui, aux Tuileries, c'est encore
on
le roi.
Les apparences.
C'est encore le roi. Il y a encore une vie de cour, une petite vie de cour.
Il
y a le coucher, le lever du roi, ils vont à la messe tous les matins. Enfin, c'est un petit Versailles à l'échelle des Tuileries avec tout ce que cela comporte, c'est-à-dire que c'est la garde constitutionnelle qui est auprès d'eux, qui les surveille et qui les surveille pas pour les protéger, c'est plutôt le contraire, pour voir ce qu'ils font et même évoquer, faire des commentaires sur ce qu'ils font.
Oui, c'est-à-dire qu'on sent une hostilité, mais en même temps, c'est toute l'ambiguïté de la période. C'est-à-dire tout au long des personnages auxquels ils sont confrontés, on a l'impression qu'ils les abaissent, mais en même temps qu'ils les abaissent pour les protéger, comme s'ils épousaient un mouvement de façon à éviter le pire. C'est que le moindre raidissement pourrait provoquer leur assassinat immédiat.
C'est très ambigu.
Ils ne savent plus à qui se fier, mais nous non plus, en lisant le livre, on ne sait pas trop si la guerre nationale fait mine de les humilier pour ne pas avoir à retourner ses canons contre une populace beaucoup plus sanguinaire. On sent qu'à certains moments, surtout pour le déplacement de Versailles vers les Tuileries, qu'on essaye de les contraindre, de leur remettre la pression, mais en même temps de les rassurer pour les emmener là où on veut les emmener.
Ben oui. Le but, c'est en fait que le roi lâche prise. Mais le roi n'a pas compris ça. Et le roi, lui, pense qu'il a encore les moyens de devenir un roi constitutionnel et de régner entouré de ces personnages-là, qu'il n'apprécie pas, mais avec lesquels il négocie et il joue. Il pense que ça peut marcher. Mais il n'est pas assez retors. Si à sa place, il y avait eu le comte de Provence, le futur Louis XVIII, les choses auraient tourné autrement. Elles auraient tourné à l'avantage du roi. Parce qu'il est tordu, il est...
Il est franchement détestable.
Il est odieux, ce personnage.
Vous mettez en regard, ça peut certainement se passer dans beaucoup de circonstances de la vie, il suffit d'avoir vécu en entreprise pour le savoir, mais les lettres qu'il envoie successivement lorsqu'il apprend qu'il grimpe dans l'ordre de succession, où la première parfaitement éplorée pour l'immense chagrin que lui cause le décès du dauphin et qu'il ne s'en remettra pas. Et la même écrite le même jour au comte d'Artois, si je ne me trompe pas, expliquant que, que tout ça, finalement, c'est une bénédiction pour l'État.
Et ça tourne bien pour nous.
En l'occurrence, l'État, c'est lui. Voilà.
Oui.
Et donc la famille royale restreinte doit composer avec tous ces personnages qui spéculent à la fois sur le maintien de la monarchie, mais la chute de Louis XVI.
Alors, donc, le roi, lui, essaie de négocier, essaie de s'installer une petite vie là-dedans, au milieu de tout ce fatras. Et pendant ce temps, la reine ne voit qu'une issue, la fuite. Et c'est là qu'elle ressasse tout le temps cette histoire de fuite, qu'elle a Fersen qui lui a proposé de les aider. Et c'est en fait le fait que, d'habitude, la famille royale va passer l'été à Saint-Cloud. Et cette fois-ci, la dernière fois, les gardes refusent de laisser passer la voiture en direction de Saint-Cloud. Ils ne peuvent pas quitter les Tuileries. Et à tel point que Marie-Thérèse Charlotte est furieuse et trouve ça odieux de voir les gardes et notamment les canonniers qui sont prêts, enfin qui tournent leurs canons vers le roi pour lui signifier qu'il n'est pas question qu'ils partent.
Mais c'est là où elle comprend que les défenseurs sont aussi les geôliers.
Voilà. Et donc là, elle voit la situation, l'état de la situation. Elle comprend que son père et n'arrive pas à la gérer. Et que, bien que roi, il perd du terrain. Elle est profondément choquée. Et au bout de 2 heures d'attente pour essayer de monter dans la voiture, le roi décide qu'il rentre dans ses appartements. Donc, il rentre dans ses appartements, suivi de toute la famille royale. Et la dernière à fermer la marche, c'est Marie-Thérèse Charlotte qui passe d'un air très dédaigneux devant tous ses soldats, ses gardes, et qui rentre à la suite de son père. Voilà. C'est un regard à la fois courroucé, furieux contre les gardes, mais aussi furieux après son père, qui n'a pas réussi à régler le problème.
Elle n'était pas la seule, je crois, à ce moment-là. Elle le trouvait un peu faible.
Oui, c'est sûr. Mais Louis XVI a montré à ce moment-là son incapacité à être roi. C'est terrible à dire, c'est... Mais...
Vous imaginez Bonaparte dans la même situation?
Oui, je vois très bien Bonaparte dans cette situation. Oui, mais même, je vous dis, certainement, le comte de Provence aurait tourné l'affaire à son avantage.
Donc la solution à laquelle il finit par se résoudre après cet épisode, c'est de...
C'est la fuite.
C'est la fuite sous déguisement à Varennes.
Alors, il faut dire que c'est le comte de Provence et son épouse émigrent le même jour. Ils partent le même jour et ils vont... lui, il part directement sur la Belgique en passant par Lille. Et Louis XVI a l'idée assez étrange de vouloir se rendre à Montmédy sous la bonne garde de l'armée de Bouillet. Et ensuite, il passera. Enfin, c'est
choisit
pas clair.
Le chemin le plus long, presque.
Il choisit le chemin le plus long, le plus complexe, parce que c'est vrai que l'Argonne n'est pas facile. Donc, à partir de Sainte-Menehould, il perd du terrain. La voiture avance au pas. En plus, il fait nuit. Enfin bref, ils font tout pour se faire prendre. Et effectivement, ils ont été reconnus à Sainte-Menehould par le fameux Drouet. Et Drouet, qui n'a pas osé les intercepter à Sainte-Menehould, pourtant il avait reconnu le roi, l'a dit à la municipalité de Sainte-Menehould. Et là, Sainte-Menehould a dit « Mais on a reçu un câble d'une autre ville qui dit que le roi est passé par là. Il faut absolument l'arrêter. » Et c'est là que Drouet part à cheval avec un copain et il double la voiture dans la forêt un peu avant Varennes. Et il s'installe en bas du carrefour de Varennes pour arrêter la voiture, en hurlant de façon à ce que réveiller la ville, les soldats, etc. Mais ce qui est monstrueux, c'est que au même endroit dormait un petit escadron de l'armée de Bouillet, et qu'ils sont passés devant la voiture royale sans rien dire. Ils n'avaient pas d'officier, donc ils n'ont rien dit.
Enfin, un soldat obéit aux ordres, madame.
Oui. Je sais bien.
Quand il n'y a pas d'ordre, ça veut dire qu'il ne faut rien faire.
Mais ce sont les soldats du roi, quand même.
Oui, on sent, lors de cet épisode, comme en bien d'autres, que tout ne tient toujours qu'à un fil. C'est-à-dire que, lors de cette fuite, comme en bien d'autres occasions, ils sont à deux doigts de se faire massacrer, à deux doigts de parvenir à s'enfuir.
Oui.
Et cela, en permanence, pendant des années.
Mais on dirait qu'ils ont le mauvais œil.
Ils ont le mauvais œil, mais aussi parfois les mauvaises décisions. Parce qu'à cet instant, également, des villageois fidèles leur proposent de leur venir en aide. Ils refusent.
Oui.
Sur le chemin du retour, on croise un autre personnage qui, si je ne me trompe pas, leur propose de fuir par la Marne.
Oui.
Oui, le fils. Ils refusent également.
Du maire.
Est-ce qu'il n'y a pas aussi, dans la mentalité du roi, le sentiment désormais désuet qu'il bénéficie d'une immunité en raison de son statut et qu'on n'osera pas en attenter à sa personne ni à sa famille de façon irrémédiable.
Je ne sais pas, parce qu'il pensait souvent à la mort. Donc, il pensait qu'il allait mourir. Il était en train de souffrir en otage.
Alors, c'est quoi? C'est une mentalité un peu christique qui veut s'offrir en sacrifice il pense que ça va avec sa fonction.
Je pense. C'est ce qu'il croit.
On sent aussi, à plusieurs reprises, vous le dites, qu'il y a une sorte d'aversion pour la violence et pour le fait de verser le sang. Et que donc, à chaque fois qu'il y a une issue pacifique, il l'a choisie. Mais elle est toujours à son désavantage, cette issue pacifique. On parlait de Bonaparte tout à l'heure, effectivement. Probablement pas le même genre de scrupule.
Oui. En plus, le retour de Varenne c'est épouvantable, ce voyage de Varenne, avec toute la foule qui les suit, qui est auprès d'eux et qui trucide les aristocrates qu'ils croisent sur le chemin. C'est monstrueux.
Oui, là, pour le coup, sur ce chemin-là, et pour le reste, c'est... ces éruptions de violence décrites par des témoins de l'époque sont absolument effroyables. C'est-à-dire que l'imagerie des têtes au bout des pics qu'on vient montrer sous les fenêtres pour narguer, c'est une chose de l'entendre dire, ça doit être une autre de la vivre.
Oui, et c'est ce qu'ont vu donc les enfants royaux. Marie-Thérèse et son petit frère ont vu ça. C'était la première vision qu'ils ont eue de ce qu'est une foule en furie.
Donc après ces événements, la famille royale se trouve bien rapidement enfermée au temple. Alors au temple, évidemment, on change totalement d'ambiance, puisque c'est un bâtiment relativement désaffecté, réinterprété en prison. Quelles sont leurs conditions de vie là-bas?
Alors, dans le temple, il y a deux choses. Il y a le temple qui a été reconstruit et qui est un très beau palais. Ils pensaient être enfermés dans ce palais. Et ils ne sont pas enfermés dans le palais, ils sont enfermés dans la tour. Cette tour qui servait aux archives, on déposait les archives du temple dans la tour. Donc, on a rapidement fait des travaux et on a mis au rez-de-chaussée, au premier étage, l'administration et les gardes du temple. Ensuite, au deuxième étage, Louis XVI, avec le dauphin et Cléry, son valet. Et au troisième étage, Madame Royale, Marie-Antoinette et la tante de Madame Royale, Madame Élisabeth. Donc voilà en gros comment on fonctionne. Et au-dessus, il n'y a rien, c'est tout complètement désaffecté. Et il y a une promenade qui est tout à fait en haut de la tour. Donc ils ne vivent pas ensemble, ils se retrouvent dans la journée et ils essaient de recréer une vie familiale, ce qu'ils arrivent tout doucement. Donc pareil, ils ont décidé de donner des leçons aux enfants. On apprend la tapisserie à Madame Royale. Son père, lui, continue les cours de géographie. Le petit prince apprend à lire et à écrire. Tout se passe normalement jusqu'au moment où les gardes viennent chercher le roi pour l'emmener à la convention où il doit être jugé. Donc là, on apprend. Enfin, ils ne savaient pas, on ne leur parle pas. Les gardiens du temple ont ordre de ne pas leur adresser la parole. Donc, on ne le parle pas. Et ils n'ont pas le droit de parler. Et lorsqu'ils parlent entre eux, on leur demande de parler fort, de façon à entendre ce qu'ils disent. Alors, évidemment, il y a toute une vie qui se crée, c'est-à-dire que ils vont faire de la résistance. Surtout Madame Élisabeth, la sœur du roi, qui a réussi à discuter avec les valets de chambre, notamment avec Cléry, le valet de Louis XVI, et qui s'entretient avec lui par le biais de lettres qu'elle passe par un fil de son étage qu'elle fait descendre chez Cléry. Bon, c'est assez risqué. Et puis aussi, ils mettent des petits papiers dans les bouchons de carafes. Donc ça, c'est l'autre gardien, c'est un des gardiens qui est au courant et qui fait attention quand il sert l'eau de ne pas faire partir le papier avec. Ils ont appris à utiliser le citron comme encre sympathique. Enfin, ils ont tout un arsenal pour réagir et pour essayer de s'informer.
Et se parler les uns et les autres, car si j'ai bien compris, on leur inflige aussi d'être séparés les uns des autres.
Voilà, c'est ça.
Pas au début, mais très rapidement.
Ils n'ont que les repas où ils sont ensemble. Le roi et le dauphin montent chez la reine pour déjeuner et dîner. Enfin, dîner et souper. Et donc, on arrive à ce stade où c'est Madame Élisabeth qui devient le chef de bande parce que c'est elle qui négocie avec l'extérieur et qui fait passer plein de messages. Le problème, c'est que elle est inféodée au comte d'Artois et les nouvelles arrivent donc au comte de Provence et ça sert à rien. Je veux dire que le comte de Provence, il va pas aller sauver son frère. Au contraire, il voit que les choses s'enveniment, donc c'est tout bénéfice pour lui.
L'eût-il voulu, l'eût-il pu?
On pouvait organiser une attaque des Tuileries, du temple. On pouvait, enfin, il avait suffisamment d'aristocrates à ses pieds pour essayer de sortir le roi de cette impasse. Mais il n'a pas levé le petit doigt.
Ce n'est pas ce qui se passe, et donc Louis XVI est emmené.
Louis XVI est emmené. Ils ont cru jusqu'au dernier moment qu'il en réchapperait. Mais lui, donc, savait, et il avait eu le prêtre à ses côtés... dont j'ai oublié le nom, Edgeworth, qui a accompagné le roi jusqu'à l'échafaud, et lui, dans son livre, dit bien que le roi était prêt pour la mort et qu'il attendait plus que ça. Ce serait pour lui une libération.
Avant de partir, il fait d'ailleurs prêter serment à son fils, considère encore comme le successeur, de ne jamais le venger.
Oui.
Ça résume un peu le personnage.
Oui, oui, tout à fait.
À la fois touchant et plein de scrupules, oui. De sentiments chrétiens, mais qui le rend peut-être, probablement aussi, absolument inapte à exercer quelque pouvoir que ce
tout
soit, en tout cas dans ce type de période.
Oui, oui. Oui, il est hors du temps, lui, là.
Le roi avait-il conscience que les autres membres de la famille et la reine allait y passer par la suite?
Il le craignait, mais il a demandé à la fin de son procès, il a demandé que puisque c'était lui qui partait à l'échafaud, qu'on s'occupe de sa famille et qu'on soit très proche d'elle et qu'on les aide.
C'est ce qu'il demande à ses bourreaux.
Oui. Et les bourreaux lui disent, bien sûr, oui, oui, bien sûr. Alors que les bourreaux, ils savaient que déjà Marie-Antoinette était sur la sellette. Alors,
mais ils ne savaient pas qu'ils l'étaient eux aussi déjà.
Oui, c'est ça, c'est monstrueux parce qu'il arrive un moment où quand Marie-Antoinette part à l'échafaud, ça a été... Danton est passé avant, enfin c'est monstrueux.
Oui, c'est-à-dire que quand ils sont dans leur cellule, ils ont l'impression que les choses vont s'aggraver parce qu'un tel réclame leur tête, mais la bonne nouvelle, c'est que cette même personne, elle-même, a été guillotinée.
Oui,
donc ensuite, on reporte les espoirs sur le fait qu'un modéré ou plus compréhensif va pouvoir, du coup, reprendre la main. Mais non, nouveau coup de théâtre, il est à lui,
oui.
À son tour, évacué. Robespierre semble plutôt bien disposé à leur égard, ou du moins ne veut-il pas donner trop d'importance à des demandes qui sont faites par un rival. On sait ce qu'il adviendra de Robespierre.
Mm-hmm.
Enfin, c'est-à-dire que ils vivent au rythme de bonnes ou de mauvaises nouvelles, qui sont que des nouvelles d'exécution.
Oui.
Qui se déroule dans les rangs républicains, mais où on prend la mesure du niveau de désordre, de trouble qui s'empare à ce moment-là de la France.
Bah oui, c'est quand même fou de voir que, par exemple, le chef de la garde nationale qui est appelé à l'hôtel de ville pour faire état de la manière dont il assure le transfert du roi, etc., en fait, une fois qu'il arrive sur les marches de l'hôtel de ville, on le zigouille. C'est monstrueux.
Oui, oui, il y a quelque chose qui peut rappeler les pires périodes de la Rome antique ou d'autres zones géographiques actuelles plus troublées. Vous savez, on se dit ça aussi en lisant votre ouvrage. Finalement, c'est pas si lointain. Ça nous sépare de juste de quelques générations.
Oui, oui.
Aujourd'hui, avec notre sensibilité contemporaine, lorsqu'on regarde les actualités internationales, on se dit, bon sang, en Syrie quand même, quelle sauvagerie.
Oui, c'est de la sauvagerie, là, ce que nous avons dans ce livre.
Il suffit de jeter un petit coup d'œil dans le rétroviseur et on se rend compte qu'en fait, on n'est pas tellement différent.
Hein. Non, non.
Ça nous laisse sans voix.
Oui,
ça.
Oui, mais c'est un petit peu aussi pour ça que j'avais écrit le livre, que j'ai écrit le livre à ce moment-là. Quand. On baignait déjà dans tout un tas de révoltes.
Toutefois, pour terminer sur une note positive, puisque là nous en sommes à des considérations sur la nature humaine et la sauvagerie dont elle est capable. Pour terminer sur une note positive, il y a aussi de belles figures, de personnages qui dans des circonstances extrêmement difficiles, y compris parmi les geôliers d'ailleurs, font preuve d'humanité, prennent des risques, et donc sont d'ailleurs sanctionnés très durement pour cela, puisqu'ils sont assassinés à leur tour. Mmh. Voilà, on revient simplement, je ne sais pas, quelque chose qui ressemble à peut-être de la décence. Car cette violence, ce qui est extrêmement choquant dans cette violence, c'est que c'est de la violence gratuite. C'est de la violence obscène.
Oui.
C'est de la violence dont on tire une jouissance.
Mmh.
Et face à ce déchaînement-là, il y a quand même aussi des figures d'individus qui reviennent à la décence, à l'humanité, à la compassion ou
pendant tous ces drames, il y en a qui sont restés auprès du roi, qui ont tenu le coup. Il y a le valet Cléry qui l'a beaucoup aidé. Il y a Hugh aussi, qui est un proche de Louis XVI et Marie-Antoinette. Et puis après la mort de Marie-Antoinette et de Madame Élisabeth, il y a les nouveaux gardiens, puisque au temple, on déplaisait très vite, on était très mal vus, et en plus, ils se surveillaient les uns les autres. Donc, dès que l'un faisait une réflexion désagréable, il était convoqué le lendemain matin au comité, et puis ils zigouillaient le surlendemain. Donc, il y a eu deux gardiens, notamment Lannes et Gomain, qui sont arrivés hélas un peu tard pour le petit dauphin, puisque ce sont eux qui ont recueilli le dernier soupir du dauphin.
Oui, décédé de mauvais traitement, on ne l'a pas dit. Hein.
Qui est décédé d'abandon. On lui déposait ses repas sur un guichet. Il devait les prendre, donc comme il est tout petit, il a 8 ans, il n'arrive pas à attraper la carafe d'eau, il la fait tomber. Et du coup, quand il voit qu'il n'arrive pas à attraper les aliments, il se dit, il se passe de manger. Alors ce sont les souris, les rats qui viennent manger ses repas. Il est tout le temps couché, parce qu'il a mal, il a très mal dans les os, et il est sur une couverture pleine de vermine, les grosses araignées noires qui passent, il est terrorisé, mais il n'appelle pas au secours.
Et on pourra venir quand même au sujet du livre. Madame Royale, dans cette période, par quel sentiment est-elle traversée ?
Alors, Madame Royale, elle se demande ce que sont devenues sa mère et sa tante. Parce que, bon, elle a assisté à leur départ, mais on leur a dit, ils reviendront, c'est tout, on n'a rien dit. Puis après, ils avaient ordre de ne rien dire, ils n'avaient pas le droit d'en parler. Et ils étaient terrorisés lorsque Madame Royale posait la question, où est ma mère, où est ma tante ? Il disait, je ne sais pas, j'ai pas le pouvoir de le savoir, je ne sais pas, je ne sais rien, etc. Et donc, Madame Royal était très inquiète. Elle n'arrêtait pas de poser des questions et on ne lui répondait pas. Elle était partagée entre la survie. Il fallait qu'elle vive. Donc, elle pouvait attraper les aliments au guichet. Parce qu'en fait, le frère et la sœur ont eu le même traitement. Ils ont eu les mêmes repas, les mêmes choses. Simplement, lui était trop petit. Il était en plus souffrant. Donc, il fallait qu'il ait quelqu'un avec lui. Mais sa sœur s'en est sortie, tout simplement. D'abord parce que sa tante, Madame Elisabeth, lui a dit que quand on est prisonnier, il faut passer sa journée, il faut avoir une journée organisée. Et donc, dès le lever, il faut, après sa prière, il faut nettoyer sa chambre. Donc, elle passait de l'eau dans sa chambre pour fixer la poussière, elle balayait. Ensuite, elle faisait sa toilette, elle se coiffait, puisque Cléry lui avait appris à se coiffer à la demande de Marie-Antoinette, qui avait dit « Une princesse ne se coiffe pas, mais il faut que ma fille sache se coiffer. » Donc, elle se coiffait. Ensuite, elle marchait dans sa chambre. C'était un ordre de Madame Elisabeth. Elle lui avait dit « Il faut marcher pendant une heure, dans tous les sens, à droite, à gauche, vous recommencez, etc. » et vous comptez vos allées et venues de façon à marcher pendant une heure pour que votre corps tienne le coup et soit en état physique de bouger. Donc elle faisait ça. Et puis ensuite, il y avait le rituel habituel de l'histoire, la géographie, toujours, les prières. Elle avait insisté pour que si vous avez le moindre souci, priez, vous verrez que Dieu vous écoutera.
Et c'est cette façon d'affronter les événements, où elle fait preuve d'ailleurs d'une force de caractère quand même assez étonnante.
Oui.
Il y a beaucoup de personnages de femmes qui font preuve d'une force de caractère assez stupéfiante, oui, au fil de votre récit. Mais ce n'était qu'une incise. Elle sera donc la dernière prisonnière
du
temple.
Ouais. Oui, elle est échangée. Finalement, après plusieurs hésitations, c'est le directoire, la convention disparaît, le directoire prend les choses en main, le directoire, il en a assez de ses histoires, et il veut se débarrasser de Madame Royal le plus vite possible. Et c'est là qu'ils disent en plein discours de la convention, c'est-à-dire quelques jours avant que le directoire prenne les rênes, un député se lève à la tribune en annonçant que Madame Royal sera échangée avec les députés, l'ambassadeur et je ne sais trop qui, et un ministre qui avait été fait prisonnier par Dumouriez au moment de sa trahison, et Dumouriez les avait donnés à l'Autriche, et ils étaient enfermés en Autriche. Donc on va les changer contre ces prisonniers.
Et ça arrange tout le monde.
Ça arrange tout le monde, et ce qu'on essayait de faire, c'est que surtout que Madame Royal ne sache pas que dans ces prisonniers, il y avait Drouet, le fameux personnage qui les avait arrêtés à Varennes.
Est-ce que vous pensez qu'elle aurait été capable de...
En tout cas,
de refuser l'échange et sa liberté.
Non, je pense pas, mais peut-être que.
Et buté, mais pas à ce point-là.
Elle aurait hurlé, ou on ne sait pas. Enfin.
Toujours est-il donc que Madame Royal a survécu à l'ensemble de ces épreuves. Vous avez dit tout à l'heure que le directoire. On avait assez, vous voulez se débarrasser de ce qui devient un fardeau, finalement.
Ben oui.
Est-ce qu'au-delà du directoire, les traitements infligés, ces déchaînements de violence, matinées d'obscénité, ce meurtre qu'on pourrait qualifier de non seulement politique, mais presque rituel, n'est pas aussi un fardeau dont on peine à se débarrasser? Est-ce que cette ambiance de guerre civile, sinon physique, sinon au moins idéologique, qui semble traverser l'histoire de France depuis lors, qui n'a pas là sa source.
Je crois que ça nous a marqués et qu'on a beaucoup de mal à soulever ce poids lourd qui pèse sur nous depuis des siècles. Et je pense que c'est une punition.
En tout cas, j'invite nos auditeurs qui souhaitent obtenir des éléments sur cette lourde question que nous posons certainement en tant que communauté, mais aussi en tant qu'individu, chacun d'entre nous, à se reporter à votre ouvrage, car il a l'immense mérite de présenter l'histoire telle qu'elle se fait. Ce n'est pas une histoire des idées, c'est une histoire des gens. Alors à l'époque, les gens se confondaient avec les institutions, mais cela rappelle cela aussi. À travers les soubresauts de l'histoire, il y a des êtres de chair, de sang, de sentiments, et comme nous l'avions dit au début, des chevaliers, des princesses, des salauds, et des gens bien. La suite se déroule sous nos yeux.
Tout à fait.
Madame, merci beaucoup. Je rappelle les références de votre ouvrage, Madame Royale, d'Anne Muratori-Philippe, et c'est publié chez Fayard. Merci encore de
merci
nous avoir accompagnés au cours de cette émission. Thank you.